Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio ZEF 91.1 FM. Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque c'est une mission interview. Nous avons eu l'honneur de recevoir la monteuse Sarah Salem qui a du coup travaillé sur le montage du film Nommé, film que nous avons diffusé au cinéma Les Lobbies déjà lors d'un événement lors de sa première diffusion. Et le film est encore disponible pour deux séances encore cette semaine, samedi et mardi. Et du coup, on a rencontré cette monteuse ce jeudi-là. Nous avons passé d'ailleurs une excellente journée en sa compagnie. Et nous avons pu également lui poser quelques questions. On est content de la recevoir alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que voilà, on a diffusé le film Nommé ce jeudi soir. Et c'est un film que nous avons absolument adoré. Alors déjà pour tout le contexte historique du film que Sarah Salem va très bien vous expliquer dans quelques instants. Et aussi parce que c'est personnellement un des montages qui m'a le plus impressionné. Il y a un travail assez immense sur la gestion des images d'archives dans le film et de son intégration dans le récit. Mais j'en dis pas plus, vous allez très vite comprendre pourquoi ce film et ce montage, et en général en fait tout le travail qu'il y a sur le film, parce que c'est un vrai travail de collaboration entre plusieurs personnes, un vrai travail d'équipe où tout le monde était très impliqué. Et vous allez vite comprendre pourquoi ce film nous a fascinés. Alors, tout d'abord, première question qu'on lui a posée, c'est simplement de se présenter, de présenter son parcours, parce qu'elle a un parcours plutôt assez atypique. Elle est monteuse depuis 4 ans, mais elle n'a pas toujours été monteuse. Écoutez ça.
Bon, bah alors moi, je m'appelle donc Sarah Salem. Donc je suis monteuse depuis 4 ans maintenant. Mais c'est vrai que je ne viens pas du montage au tout début. Je viens plutôt du récit, du langage, texte et images sur d'autres médiums. Donc j'ai commencé en fait ma formation à l'université avec des études de philosophie et d'art plastique. Je m'intéressais à la philosophie du langage, à la théorie du langage. Et ensuite, j'ai fait de l'histoire de l'art et j'ai travaillé autour de médiums visuels, du dessin à la photo. Donc ma pratique première, c'est une pratique artistique qui mélange le récit écrit, la parole, au médium visuel. Donc je suis passée par la bande dessinée, par l'édition photo et texte, et j'en suis venue plus tard à l'audiovisuel. Je me suis donc formée en tant que technicienne il y a 4 ans maintenant. Et depuis, j'ai travaillé en tant que cadreuse sur mes premiers projets. Et puis, progressivement, je me suis spécialisée vers le montage parce que c'est devenu évident que c'était mon langage, quoi.
Alors ensuite, elle va nous simplement nous dire aussi comment elle a rejoint l'équipe du film Nommé. On écoute ça tout de suite.
Alors en fait, effectivement, donc Nommé, c'est une coproduction entre la Guinée-Bissau, le Portugal et la France. Et le producteur français est basé en Bretagne, tout comme moi. Donc Olivier Marbeuf, donc de Spectre Productions, recherchait un technicien, une technicienne qui soit basée en Bretagne pour travailler sur le projet. Et j'ai été tout de suite très intéressée. Il se trouve qu'Olivier Marbeuf a lui aussi un parcours assez hybride entre différentes formes. Avant de fonder la société de production Spectre, il avait fondé une maison d'édition, puis un centre d'art contemporain en région parisienne. Et donc je suivais son travail depuis bien longtemps. Quand j'ai entendu parler du projet, j'ai été tout de suite happée par la thématique et par les perspectives formelles qui allaient forcément avoir à être travaillées au montage. La thématique postcoloniale, c'est un axe qui m'occupe depuis longtemps. Le parcours de Sana Nahada implique de traiter ce sujet d'une façon très personnelle. Et ça m'enthousiasmait particulièrement d'aborder la question de l'indépendance à travers la trajectoire individuelle d'une personne qui a traversé le conflit au premier plan. Il se trouve que ce film, par chance, était monté à Rennes, la ville où je réside. Et puis, en connexion avec Olivier Marbeuf, voilà, le lien s'est fait. On a échangé sur la thématique. Et voilà, l'alchimie s'est créée de cette manière-là, quoi. Voilà comment je suis arrivée sur le projet. Oui, oui, en fait, j'ai eu... donc, au total, j'ai passé en 2022 4 mois sur le montage du film. J'ai reçu dans un premier temps les fichiers, j'ai fait le dérochage, j'ai passé une grosse semaine, 10 jours, à travailler la matière, à la découvrir et à chercher à en avoir une vision globale seule. Et puis Sana est arrivée et à partir de ce moment-là, on a passé un été ensemble à construire le film. Donc ouais, en effet, il était présent pendant la majeure partie du processus et c'était absolument nécessaire et bien évidemment j'avais quand même grandement besoin de construire une relation avec lui pour pouvoir construire l'histoire et le film au plus près de ses intentions mais aussi de la situation politique du pays au sujet de laquelle j'avais tout à découvrir quoi.
Alors maintenant nous allons aborder le gros point de la discussion qu'on a pu voir avec elle et aussi en fait un des points très importants du film, c'est-à-dire la gestion des images d'archives, comme je l'ai expliqué en début d'émission. C'est un très gros morceau, donc en fait voilà, ça va être en plusieurs parties, en plusieurs questions. Vous allez voir la première réponse est assez conséquente puisque en fait elle nous explique comment ces images d'archives leur ont été procurées, d'où elles viennent, comment elles ont été filmées, et elle va recontextualiser un peu tout le conflit dont parle le film.
Alors la partie des images d'archives, c'est vraiment le cœur de mon travail sur ce film. Et justement, c'est là que la relation avec Sana a été absolument nécessaire. Rien n'était défini à l'avance au scénario. Moi, j'ai reçu le scénario donc en amont du travail de studio. Et donc, au scénario n'étaient indiquées que les parties concernant la fiction tournée donc, en Guinée-Bissau en fin 2021. Fin 2021. Et tous les passages d'archives restaient à construire, sachant que personne, ni moi, ni Sana, ne savait exactement ce qu'il allait figurer dans le disque dur d'archives numérisées que nous allions recevoir au studio. Donc, le jour où le disque dur est arrivé, a commencé un travail de dérochage, de plongée dans une matière très foisonnante d'images donc tournées en 16 mm, mais, enfin, pour leur plus grande part. Donc, pendant le conflit d'indépendance qui a opposé la Guinée-Bissau au Portugal, donc entre 69 et 74. Donc les images les images d'archives qui figurent dans le film ont été tournées pour une part par Sana, pour une part par des camarades qui ont été envoyés à Cuba. Voilà, pour refaire l'historique de ces archives, en fait Sana a grandi avec ce conflit d'indépendance. Donc qui était un conflit de maquis, les paysans, le peuple prenaient le maquis, s'organisaient donc dans la forêt sous le commandement d'Amilcar Cabral, le chef de la Révolution. Et Sana, à cette époque, Sana s'est retrouvé impliqué dans le conflit alors qu'il avait seulement 14 ans. Il a commencé par être infirmier, par soigner les blessés de la guerre. À un certain point du conflit, s'est imposé la nécessité de faire des images, de documenter ce qui se jouait lors de cet événement historique que les autorités coloniales cherchaient à masquer, cherchaient à occulter, afin de dire qu'il ne se passait rien. Donc Amilcar Cabral a envoyé 4 personnes, hommes et femmes, à Cuba, pour apprendre le maniement technique d'une caméra, dans le but de revenir ensuite en Guinée pour documenter le conflit. Donc Sana fait partie de cette équipe. Il n'avait jamais vu un film avant de partir pour cette formation technique à Cuba. Et puis il est revenu et il s'est mis à filmer la guerre. Donc les images qu'on voit dans le film, pour une certaine part, sont tournées par Sana et par ses camarades. Et puis, il y a aussi des images qui viennent d'autres sources, de réalisateurs et de réalisateurs sympathisants de la cause indépendantiste qui ont filmé aussi le conflit depuis leur point de vue. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que la guerre a été terminée, toute cette matière sur pellicule a dû être conservée, a dû traverser les décennies. Donc le conflit s'est terminé en 1974. Et suite à ça, les bobines ont dû être conservées. Sauf que la Guinée-Bissau est un pays très instable politiquement. C'est d'ailleurs le sujet du film. Après la Révolution, plusieurs régimes se sont succédés et il y a eu de nombreux coups d'État. Et lors de l'un d'entre eux, le local où les pellicules ont été conservées a été vandalisé. Ce qui fait que la plupart de la matière a été soumise aux intempéries, à l'humidité, aux parasites. Et ce qui explique qu'une grande partie d'entre elles a été soit perdue, soit fort détériorée. Donc en fait, le résultat, c'est que même Sana ne savait pas ce qui allait, ce qu'il restait de cette matière qui avait été prise à l'époque. Donc nous avons reçu le disque dur, et sur ce disque dur figuraient 40 heures de rush, donc numérisées, datant de cette période de guerre. Et nous sommes mis, Sana et moi, à plonger dans cette matière, et il a fallu inventer un système de classement pour trouver des façons de ranger et d'orienter via ce classement la matière dans le détail, quoi. Donc ça a été un travail évidemment en partenariat étroit avec Sana, et c'était passionnant parce que moi j'y voyais une matière très expressive, très foisonnante de détails, et qui allait me servir pour trouver des raccords justement avec cet autre régime d'image très différent, très stylisé du point de vue de la photographie. Et j'ai assez vite compris qu'il y allait y avoir un langage à créer pour connecter ces deux strates temporelles et ces deux réalités visuelles. Et Sana, de son côté, me faisait part d'énormément d'éléments pour contextualiser chaque détail. Il reconnaissait des visages. On avait aussi beaucoup de matière sonore où il était chaque son le renvoyait à un certain type d'armes utilisées pendant la guerre, des souvenirs aussi assez douloureux, des anecdotes, des ramifications de souvenirs. Et donc j'ai essayé de développer une écoute aussi de cette parole pour pouvoir suggérer au mieux cette tonalité là qui a été arrachée dans ce contexte de guerre.
Alors, deuxième point important sur les images d'archives, c'est tout simplement son application artistique en fait dans la maîtrise de ces matières là, de ces images là, et comment en fait elle a intégrer en fait une patte artistique, une création plastique autour de ça pour que ça donne un sens à la narration et qu'elle puisse vraiment raconter émotionnellement l'histoire qu'a voulu raconter le réalisateur, l'histoire très personnelle qu'il a voulu raconter, et comment elle s'y est impliquée, et comment aussi elle a raconté à travers ça finalement une façon très singulière de parler de la guerre et du conflit, en y mettant une certaine poésie à l'intérieur et en essayant vraiment d'y intégrer le récit personnel de Sana.
Ouais, c'était très expérimental, ouais. Et d'où le système de classification dont je parlais. Ça peut paraître assez technique, mais concrètement, sur le logiciel que j'utilisais, j'ai créé plein de timelines, donc de lignes d'images. En prenant en compte donc, les images qui étaient figuratives, sur lesquelles on voyait clairement des sujets, mais j'ai inventé aussi un système assez précis pour classifier les détériorations par qualité plastique. Les déchirures, les poussières, les champignons. Je me suis rendu compte, à force de m'imprégner de cette matière, que chaque... chaque texture avait une rythmique potentielle et que ça créait une sorte de langage. Et en essayant des choses, vraiment par l'expérience, je me suis aperçue que certaines... qu'il y avait des accroches, en fait. Bah voilà, les fameux raccords. Il y avait des raccords très plastiques, en fait, à trouver pour relier en douceur, en fait, les deux qualités, les deux régimes d'image. Mmh. Ce qui est étonnant, c'est que cette matière d'archives, elle documente du détail. Parce qu'on est, dans le maquis, c'est la vie quotidienne qui est captée, la vie quotidienne qui est faite de préparation au conflit, de blessés qui sont en train d'être soignés, de pas dans la boue, d'entraînement, aussi de... y avait aussi des travaux des champs, ça c'était plus après la guerre. Que ces images ont été captées, mais il y avait, moi, ce qui m'a intéressée, c'était le détail, les choses qu'on voit pas. On a peut-être l'habitude de considérer en général les images d'archives comme documentant les grands événements de la grande histoire, alors que là il y avait vraiment la possibilité d'aller chercher du quotidien et parfois du minuscule dans ces images. Et je me rappelle avoir réfléchi aussi à cette question de comment montrer quelque chose comment montrer une réalité qui est privée d'images, en fait. Comment montrer la violence, c'est-à-dire que, voilà, il s'agit de la guerre, il y a des villages qui ont été brûlés, il y a eu des morts, on ne peut pas raconter la guerre, vraiment, si on est honnête. On ne peut pas raconter l'horreur que c'est. Et Sana me répétait souvent une phrase voisine de cette idée. Il me disait, de toute façon, on ne gagne jamais la guerre. Donc, parce que quelque chose est... Enfin, on laisse une part de soi, quelque chose est fondamentalement perdu. Et il me semblait que dans, justement, l'articulation ou l'association, on pouvait ouvrir un peu l'imaginaire à cette strate qui est indicible et immontrable de cette expérience extrême, quoi.
La question suivante a été concernant l'écriture du film. Est-ce que, voilà, si vous avez vu le film ou si vous comptez aller le voir, ce que, encore une fois, je vous recommande à faire. Et il y a... un vrai mélange, du coup, entre fiction et documentaire, et on lui posait question sur en fait qu'est-ce qui était écrit, parce que comme je l'ai expliqué, comme elle l'a expliqué, ces images d'archives vont vraiment être intégrées à la narration et vont raconter quelque chose. Ce ne sont pas juste des images illustratives, et en fait elle nous explique comment finalement elle a intégré ça au scénario, et si tout ça était écrit ou pas.
Ce qui était écrit au départ, c'était toutes les parties tournées en 2021-2022. Donc toute la part de fiction avec des comédiens et une mise en scène.
La voix off, tout ça.
La voix off aussi. Mmh. Tout ça, c'était écrit et précisé dans le scénario. Il y a certaines séquences qu'on a dû raccourcir pour des questions de rythme. Mais en gros, le scénario tel qu'il était écrit est assez, correspond assez... au résultat final. C'est pour ça que je reviens tout le temps aux archives, parce que, par exemple, sur la séquence des étoiles, là, il n'y avait vraiment rien qui... Enfin, si on s'en tient au scénario, la séquence des étoiles, elle n'était pas du tout écrite. Donc, il a fallu trouver une astuce, et je n'aurais pas pu l'inventer si je n'avais pas eu les images réelles sous les yeux. Il y a aussi, je pense, aux séquences de guerre. Donc j'ai eu l'idée, à un moment, de faire coïncider les coups de feu avec des déchirures, parce que ça fait sens. C'est un trauma, c'est une violence énorme, et en fait ça ne se montre pas. C'était aussi une volonté de la production et de Sana que de ne pas montrer la violence directement. On ne voit pas les Portugais dans ce film, mis à part un éclat dans une séquence d'archives. En fait, c'est vraiment un film sur l'indépendance du point de vue des Guinéens. Et donc, comment... Enfin, voilà, ça, c'était une question importante aussi au montage. Comment figurer la violence sans la montrer frontalement? Et donc, on a fini par avoir l'idée, avec Sana, de se servir des sons. Comme je disais, Sana reconnaissait très bien chaque coup de feu, chaque tir de mortier. À partir de là, on a assemblé des sons de coups de feu avec les détériorations de la pellicule, avec des... j'ai fait coïncider les coupes d'un plan à un autre à partir d'un design sonore que j'ai composé et que donc Tristan Pontécaille a monté ensuite par la suite. Et donc voilà, donc tout ça c'est des trouvailles très expérimentales et plastiques. Il y a vraiment, enfin là j'ai vraiment eu un rapport plastique au montage et tout ça ne figurait pas au scénario quoi.
La colonia.
Bah oui, le montage a pris une autre tournure dès lors qu'on a commencé à travailler donc avec Remna Schwartz, qui est donc le fils de José Carlos Schwartz, un très grand compositeur et musicien de Guinée-Bissau. Remna a composé un thème central pour nommer, qui se développe en fait. C'est le même thème qu'on entend au début au village, qui va se développer et changer de forme, changer d'arrangement au fil du parcours initiatique malheureux de cet anti-héros que se révèle être nommé. Et moi, au montage, évidemment, et notamment pour les phases d'archives, j'ai travaillé de façon très proche avec Remna pour inventer des séquences rythmiques, pour que le rêve et la suggestion de ces images opèrent. Il m'a fallu travailler en rythme avec les compositions de Remna. On est aussi allé chercher des sons dans les archives, parce que donc dans ce fameux disque dur d'archives, il y avait aussi beaucoup de prises de sons, de field recording, donc de prises de sons de terrain, où on entendait beaucoup de musique de village, d'instruments de kora, de percussions. Donc ça, on s'en est servi beaucoup pour des petites ambiances ténues, comme tous les sons qui sortent de la radio du personnage de Gila, le vendeur ambulant, viennent vraiment des villages, en fait. Et puis, il y a aussi d'autres séquences de musique ancienne à la kora qui m'ont servi. Mais Remna en a tenu compte dans ses compositions, ce qui donne une continuité, une cohérence à l'ambiance musicale. Et oui, je pense que la musique, c'est vraiment un portail pour la suggestion, pour le rêve et voilà, pour soutenir encore une fois cette dimension du conte.
Alors, on quitte un petit peu les questions autour de la gestion de ces images d'archives-là pour tout simplement aussi parler de ce qu'offre le film. Voilà, si, dans le film, il y a vraiment un mélange des genres, un mélange de plein d'ambiances différentes. C'est un film qui a vraiment énormément d'éléments divers à proposer, et que ce soit dans le conte, dans le film de guerre, dans la romance. Enfin, il y a vraiment énormément d'émotions et de genres différents qui sont employés. C'est bien que des fois, dans des films, quand des films utilisent, il peut y avoir vraiment une impression de trop, finalement, dans ce qu'il peut y avoir. Et c'est pas du tout le cas du film, donc je veux tout simplement demander comment, en fait, tout ça a été pensé et épuré pour que tout ça soit très digeste, en fait, et plus que digeste, que tout cela soit finalement le cœur du film et puisse vraiment décrire quelque chose de personnel autour du récit des personnages, mais aussi de son auteur.
Alors, ouais, il faut dire que Nommé, c'est un film qui est assez autobiographique pour Sana. Et toutes les dimensions que tu énumères, donc toutes ces dimensions à la fois de vie quotidienne au village, de normes sociales, sur fond de guerre, et puis cette dimension animiste qui, je pense, confère à l'histoire cette atmosphère de conte, bah, tout ça, c'est des composantes finalement de la vie de Sana. Et ça a été évidemment pensé au scénario. Tout ça, c'était des éléments comme un objet, comme si le scénario était un objet multifacette. Tous ces éléments devaient être mentionnés. Et au montage, je pense que on a travaillé aussi par procédé de réponse, justement dans les archives à certains moments. J'ai repéré des éléments qui involontairement se trouvaient dans la mise en scène, donc des images de fiction tournées, voilà, des images contemporaines. Par exemple, là, à l'instant, je pense à cette image où on voit une femme pêcher avec un filet circulaire. Donc ça, c'est vraiment une scène de pêche traditionnelle qui a été, donc qui fait partie de la mise en scène sur une séquence. Et puis que j'ai trouvé donc dans les images d'archives. Et ça, c'était voilà un petit trésor qui a vraiment à deux extrémités du film permet de faire une réponse pour suggérer la continuité d'un monde, quoi. Ensuite, je pense vraiment c'est ça, il y a cette dimension animiste qui est incarnée aussi par cette figure de l'esprit qui est présent pour faire... l'esprit, il est comme un regard surplombant, extérieur, c'est une âme qui erre, c'est un fantôme. C'est un homme qui est mort à la guerre et qui n'a pas pu avoir de sépulture. Donc il reste parmi les humains pour observer le cours de l'histoire, la vie comme elle va. Il est au courant aussi bien de l'ampleur du conflit avant qu'il n'éclate que des histoires d'amour qui peuvent se jouer. Et puis il a toujours ce questionnement sur le cours des choses, sur ce que l'histoire va donner sans jamais être sentencieux ou donner de leçons, parce que l'histoire est toujours en construction. Et je pense que ce personnage joue vraiment un rôle dans la jonction entre toutes ces dimensions de l'histoire. Et c'est de ça que parle d'ailleurs le titre du film aussi, Nommé. Il s'agit de ce... C'est une question, en fait. Sanam disait souvent... Nommer, mais le nom de qui ? Nommer, ça veut dire l'homonyme, ça veut dire on appelle comme ça en Guinée les gens qui portent le même nom que quelqu'un d'autre. Oui, mais de qui ? Me disait souvent Sana. C'est-à-dire que chacun en son nom propre est responsable du devenir collectif. Et en fait, ce devenir collectif, il n'a pas encore de nom. C'est une utopie gâchée. Donc voilà, il y a cette dimension politique, je pense, cette dimension politique et philosophique qui fait le lien entre tous ces aspects du film.
Alors, elle a pu préciser en interview, Sarah Salem est monteuse depuis maintenant 4 ans. Et donc, en fait, c'est son premier long métrage. Et vu que c'est un long métrage vraiment assez particulier et dont l'implication du montage y est très forte, je voulais tout simplement demander voilà, comment elle avait un peu perçu tout ça, si tout ça l'avait été assez difficile et impressionnant à appréhender au départ. Voilà. Et comment tout ça s'est articulé pour qu'elle puisse livrer le travail qu'elle a livré.
Techniquement, oui, je dirais. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment penser une organisation à la mesure du projet qui était assez, qui était si plein de ramifications et pour un projet de cette ampleur, quoi. Mais une fois que j'ai trouvé mon fonctionnement technique, je dirais que la relation avec Sana a guidé l'ensemble, parce que c'est vraiment moi ce qui m'a plu. Dans ce projet, c'était d'essayer de servir techniquement et poétiquement la vision d'une personne. Et ce travail-là, il a été relativement organique. C'est ça qui me... C'est un des paradoxes ou alors des composantes du montage qui m'enthousiasme et qui m'inspire. C'est que le montage, c'est à la fois une tâche... très précise techniquement et en même temps qui demande une écoute et une humanité qui sont des compétences beaucoup plus organiques à développer. Donc tout s'est construit d'une façon assez naturelle, je dirais. Surtout avec j'ai eu la chance d'avoir carte blanche sur cette matière des archives, donc il y avait beaucoup d'inspiration à y trouver et de chemin à inventer. Donc je dirais que pour un premier projet, j'étais tout à fait dans mon élément. Et puis ce que je disais tout à l'heure sur ma familiarité avec avec l'hybridité des formes plastiques a fait que je ne me suis pas trouvée dépaysée, en fait. Au contraire, c'est un film qui m'a vraiment permis d'affirmer un certain langage en résonance avec l'histoire assez unique de Sana. Donc, en fait, tous les éléments de ce projet étaient d'une telle beauté, d'une telle qualité, que pour moi, ça a été vraiment fertile et naturel, ouais, de travailler sur ce film.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On remercie encore beaucoup Sarah Selem d'être venue pouvoir présenter le film et livrer cette interview pour vous. C'est sincèrement, je pense, une personne qu'il faut suivre, je pense, et parce que vraiment son talent dans l'équipe de Cinéfilm nous a vraiment tous impressionnés. Je le dis aussi pour d'autres auteurs, hein, bien sûr, mais là, vu qu'on parle vraiment d'une jeune monteuse qui a vraiment mis sa patte dans ce montage-là, tout en d'ailleurs respectant vraiment la vision artistique de son auteur, je pense vraiment que c'est une personne qui a beaucoup à offrir artistiquement. Et nous vous tiendrons au courant de ses prochaines œuvres parce que nous, à Cinéphile, on va suivre son travail. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée et de très bons films. Au revoir.